BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
Le futur a trouvé son rythme de croisière, c'est chaque vendredi après-midi. Les pros, les cryptos, bienvenue à tous et nos talents, ils vont nous accompagner, nos pros, cette semaine. Owen Simonin, fondateur de la chaîne YouTube Hacheur avec un H au début, il est à la tête de Meria également, bienvenue Owen. Et il nous rejoint aussi Stanislas Barthélémy, oh, il est plus proche, hein, c'est le local de l'étape, Stanislas, parisien, président de l'ADAN. Bonjour Stanislas.
Bonjour.
Vous avez beaucoup moins le mérite qu'Owen, qui vient du nord de la France.
Hein, bah, quand on dit Paris, moi je viens de Méry-sur-Oise. Banlieue valdoisienne.
Ah, c'est vrai, oui, effectivement. Alors, c'est l'actu de la semaine qui va nous porter. Hein. Ces cryptos qu'on va détailler, bien sûr, qu'on va approfondir dans un instant. D'abord, le potentiel technique. Xavier Fenot est avec nous. Vous n'êtes pas Xavier, à Paris, vous, Xavier. Hein. Confirmez, toujours
non.
Pas parisien.
Ouais.
Bon, c'est pas prévu de le devenir parisien, toujours pas.
Toujours pas, Xavier.
Vous avez tort, voilà. Xavier, associé chez Interactive Trading, les cryptos, le Bitcoin, qui s'affaisse un tout petit peu, là, cette semaine, d'un point de vue technique, graphique. Comment sentez-vous son potentiel?
Oui, petite baisse cette semaine sur Bitcoin. Alors, on tourne autour des 70 000 dollars. Bon, finalement, à l'image des marchés traditionnels, hein, qui restent sous pression, sans décrocher non plus, en tout cas pour le moment. On a toujours cette pression sur les prix du pétrole au-dessus des 100 dollars, qui bloque forcément, bah, les actifs risqués, puisque ça aura un impact sur l'inflation et donc la volonté des banques centrales d'assouplir leur politique monétaire. D'ailleurs, on a eu cette semaine, en fait, l'avant-dernier discours de Jérôme Powell, le patron de la Fed, bon, qui, sans surprise, n'a pas bougé ses taux directeurs et qui ne peut pas, pour le moment, prévoir l'impact réel du blocage du détroit d'Ormuz, bah, parce que les derniers chiffres d'inflation ne prennent pas en compte l'envolée des cours du pétrole, mais aussi tout ce qui sera impacté à terme. En fait, c'est l'inflation de second tour, que ce soit engrais, soufre, hélium, ou encore, on l'a vu ces derniers jours, les prix du gaz. Donc, finalement, tous les coûts de production qui sont liés. On prévoit plus qu'une baisse des taux en décembre contre deux avant le début de la guerre. Et je dirais même que si on n'a pas de hausse des taux de la Fed en 2026, ça sera déjà bien. Parce que la BCE, elle parle en interne de peut-être les relever cet été. Donc, conséquence, on a le dollar américain qui remonte, les taux obligataires aussi, Wall Street qui est coincé et même l'or qui joue pas le rôle de refuge. Donc, ce sera un exploit, en fait, dans ce contexte de voir le marché crypto monter à contre-courant total. Bitcoin a été très résilient depuis trois semaines. Début mars, il était à 65 000 dollars. Aujourd'hui, on est à 70 000. Ce qui est marquant, en fait, c'est que Bitcoin ne se comporte plus comme une simple, entre guillemets, action tech à levier. Malgré un baril à 100 dollars, on l'a dit, et des tensions sur les taux, il capitule pas. On assiste peut-être enfin à ce test de valeur refuge numérique, alors que l'or physique lui-même, en fait, est complètement anesthésié par la force du dollar. Donc, je pense qu'il faut s'en satisfaire, même si on a encore du chemin avant de retourner la tendance baissière en place depuis octobre et la rupture du seuil psychologique des 100 000 dollars. On a passé un premier repère technique, moyenne mobile à 50 jours, mais c'est pas suffisant, ça reflue aussi sec. Faut construire des petites marges d'escalier progressivement, faire des plus bas de plus en plus haut à court terme. Ce que Bitcoin, d'ailleurs, ou même l'Ether, hein, c'est la même chose, essaye de faire depuis début mars, tenir 70 000, 69 000 dollars ces prochains jours, ce serait déjà bien pour pas retomber dans le pessimisme. Et puis, surtout, bah, c'est traverser et surtout tenir les 75 000 dollars pour relancer un certain optimisme pour les prochaines semaines. Donc, c'est mieux pour Bitcoin, même si on en veut toujours plus et plus vite. Je vois plutôt le verre à moitié plein, mais il faut avoir conscience que, bah, y a encore du chemin pour faire oublier toute cette pression baissière qu'on a depuis le mois d'octobre. Bah, encore un peu de patience.
Merci Xavier Fenot, Interactive Trading régulièrement à nos côtés. On est en pleine période d'élection en France, puis alors dans un an la présidentielle carrément. Les dons en crypto, tiens, est-ce que c'est possible pour les partis politiques, pour les candidats? On regardera si ça existe en France et ce que vient de décider surtout le Royaume-Uni. On parlera d'intelligence artificielle. Les IA pourraient-elles créer leur propre crypto? On se demandera même si les IA ont déjà pris le contrôle d'une partie du minage. En vrai, c'est tout petit, mais oui, l'IA pourrait aussi avoir commencé à miner, on en parlera. Et puis Hyperliquide, le S&P 500 désormais disponible tout le temps. Voyez, il se met on-chain, le S&P 500, devenant accessible sans interruption. C'est ce qui nous est promis. Qu'est-ce que ça va changer? Nos pros vont nous expliquer. Le monde de demain se conjugue au présent. Le vendredi, c'est les pros des cryptos. Bienvenue à tous.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Salut les pros. Owen Simonin et Stanislas Barthélémy, vous êtes en forme?
Très en forme.
Ouais, c'est un qui ressemble un peu au Bitcoin. Voilà.
Mais c'est vendredi.
Ouais, c'est ça. Le Bitcoin, bon, c'est vrai qu'il s'est éloigné de ses plus bas, mais qui peine à aller reconquérir ses plus hauts. On se demande encore si on est dans cette phase de cycle baissier, combien de temps il va durer, ou si on est peu à peu peut-être dans l'espoir d'en sortir. Ces questions restent ouvertes. Mais enfin, le Bitcoin est quand même un gigantesque système de Ponzi. Il faut le dire. C'est Boris Johnson, en tout cas, qui ose le dire, l'ancien Premier ministre britannique. Un immense système de Ponzi à lui tout seul. Il a un peu raison sur certains arguments ou vraiment pas du tout. Si vous avez des arguments contre Boris Johnson à mettre sur la table aujourd'hui sur l'idée que Bitcoin serait un système de Ponzi, allez-y, il faut y aller vraiment parce que beaucoup de gens, vous allez dans la rue et tout, vous leur dites est-ce que Bitcoin est un système de Ponzi ? Comme les gens ne connaissent pas, ils ont peut-être tendance à répondre oui. Quels sont vos contre-arguments, messieurs ?
Rien que son explication va à l'encontre de ce qu'il dit. Donc déjà... Ça me rappelle 2017 ou 2020, ce genre de prise de parole par des personnalités aussi exposées. Il explique par exemple que Bitcoin est une pyramide de Ponzi parce qu'il n'y a pas d'organisme centralisé qui le contrôle. Les pyramides de Ponzi sont contrôlées par des organismes centralisés. Et il explique que y a de la valeur qui est captée. Au contraire, dans une pyramide de Ponzi, il y a quelqu'un qui capte de la valeur et qui en extrait. Sur Bitcoin, certes, ça reste un jeu à somme nulle. On parle de valorisation qui vient par les lois du marché, l'offre et la demande. Mais pour le coup, il n'y a pas une personne qui contrôle le système et qui en sort sa liquidité, ni sur sa contrôle sur l'infrastructure, ni sur le système, ni sur le Bitcoin lui-même. Il prend d'ailleurs, il fait un parallèle et il explique ça un petit peu comme un gérant de pub qui met en place une arnaque pour expliquer comment fonctionne Bitcoin. Ça n'a aucun sens ni sur la forme, finalement, de son explication, encore moins sur le fond. Maintenant, expliquer que Bitcoin n'est pas un Ponzi, je pense que c'est l'une des toutes premières questions qu'on a dû aborder en 2016 ou 2017 sur ces sujets-là, quand j'ai commencé à prendre la parole. Donc, je ne sais même plus comment répondre à ça.
La question, elle est déjà répondue, en quelque sorte.
Clairement. En tout cas, s'il avait lu le fonctionnement de Bitcoin, il ne pourrait pas tenir à une position comme ça. On voit que c'est quelqu'un qui n'a pas compris et c'est pas grave, finalement.
Stanislas, vous avez Boris Johnson face à vous, là. Qu'est-ce que vous lui dites ?
Que le terme Ponzi est un peu galvaudé, et quand il l'utilise, c'est vraiment pour l'utiliser à mauvais escient et discréditer Bitcoin. Mais j'ai envie de dire, le vrai Ponzi, ce serait le système des retraites français, par exemple. Ce serait intéressant d'avoir l'œil d'un ancien Premier ministre anglais sur notre système. Là, on pourrait te parler de système de Ponzi. Sur Bitcoin, oui, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire que ce n'est pas un Ponzi.
C'est les premiers cryptos tous les vendredis.
Oui, bien sûr. On a mis l'ambiance là, on a bien démarré les amis. Aux États-Unis, ils en sont peut-être convaincus que c'est pas un Ponzi, évidemment les Américains, en tout cas l'administration Trump qui essaie à fond de pousser les cryptos. On en est où de leur intégration dans le système traditionnel ? La nouvelle SEC, le nouveau gendarme des marchés américains, il en est où là ? Qu'est-ce qu'il fait ?
Nouvelle prise de parole de Gary Gensler qui date du 18 mars, qui apporte de la clarté. Alors c'est pas une loi, hein. Nous, on a, encore une fois, en Europe, on a MiCA qui détermine ce que sont des cryptoactifs, nouvelles classes d'actifs, etc. La prise de parole de la SEC est assez simple. Un chat est un chat, c'est-à-dire que Bitcoin est Bitcoin et une action tokenisée demeure une action, c'est juste le support qui change. Donc il apporte de la clarté en disant qu'on va réguler, que la SEC compte réguler les actifs pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire le sous-jacent. C'est très simple. Après, c'est une position de la SEC. Encore une fois, c'est pas de la loi, c'est pas dans la loi américaine. Cette position, elle pourrait changer, cette appréciation pourrait changer demain. Ce qui est certain, c'est que ça apporte de la clarté. Et pour le business, et en l'occurrence pour Wall Street, la clarté est toujours bienvenue.
Oui, ce serait encore mieux si c'était dans la loi. J'imagine même dans la Constitution pour vous. Mais ça suffira à rassurer les institutionnels quand même, Owen ?
Ça va dans la direction. Pour le coup, il y a beaucoup de choses à reprocher à Donald Trump et sa façon même d'approcher uniquement le sujet des cryptos. Je ne vais pas sur le reste de ses décisions, mais il y a des choses à reprocher dans ses comportements vis-à-vis des marchés financiers et des crypto-monnaies. Par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est que dans l'ensemble, le marché américain s'est positionné à apporter de la clarté et à structurer une position vis-à-vis des crypto-monnaies qui était complètement floue avant sa prise de pouvoir.
C'est Clarity Act, en l'occurrence, sur les cryptos, qui pourrait donner déjà une définition vraiment dans la loi.
Les cryptos, alors, qui ont aussi le vent en poupe aux États-Unis, parce que Trump a été élu, et il met en avant les cryptos aussi, parce que un certain nombre de donateurs de la campagne Trump viennent aussi de l'écosystème crypto, pas que, bien sûr. Mais ça, les Britanniques ne veulent pas le voir chez eux, figurez-vous. Des parlementaires britanniques appellent à une interdiction totale des dons aux partis en crypto-monnaie, Stanislas.
Oui, il y a une sorte de précédent. On a vu que l'élection américaine, l'élection présidentielle, le plus gros lobby, la plus grosse industrie qui avait donné le plus d'argent aux différents candidats, et puis après il y avait une partie aussi du Congrès qui était renouvelée, c'était l'industrie crypto, loin devant l'industrie des hydrocarbures par exemple. Donc effectivement, on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas une crainte à avoir en Europe, en Angleterre ou en France vis-à-vis de ça ? Déjà, il y a des différences. Alors je vais parler surtout pour la France. Déjà, une entreprise ne peut pas financer un parti politique. Une personne morale ne peut pas financer un parti politique, et quand bien même il y a des limitations en euros. Alors, il y avait un cas d'espèce, c'est la Commission nationale des comptes de campagne et du financement de la vie publique, CNC, CFP, quelque chose comme ça, comme acronyme, qui avait rendu un avis en 2014 en disant qu'on ne pouvait pas faire un don en Bitcoin. Par contre, on peut tout à fait faire un don en crypto si derrière il y a une conversion qui est faite et que ce don, en réalité, est libellé en euros. Moyennant paiement de la plus-value s'il y a une vente de Bitcoin. Donc, je vois très bien ce qu'ils disent en disant attention aux ingérences étrangères ou aux entreprises qui prendraient part. En tout cas, pour le système français, il y a déjà suffisamment de garde-fous. Encore une fois, les entreprises n'investissent pas, il y a des montants limités et on peut utiliser une conversion de Bitcoin tant qu'on respecte ces règles.
C'est toujours bien de le préciser parce qu'on est en pleine campagne. Ceux qui nous écouteront peut-être en podcast ou replay ce week-end, on sera dimanche, on sera en pleine élection. Voilà, c'est toujours bien de me remettre les règles sur la table et dans un an, on sera sur la présidentielle.
Donc. Je pense que les mandataires financiers sur les campagnes en cours, ils n'ont pas du tout envie d'avoir ce genre de problème.
Ah ouais. Et donc les enjeux, les défis technologiques également, le quantique et l'IA, on y vient. Est-ce que le quantique, l'IA seront ou nous offriront un avenir harmonieux, harmonieux ou conflictuel? On pourrait même aller plus loin. Est-ce que les IA pourraient fabriquer leur propre crypto? On n'en est pas là, mais déjà sur le minage, un agent IAON a détourné secrètement, il y a peu, sa puissance de calcul pour miner de la crypto.
Tout à fait. Alors, les agents IA peuvent créer leur crypto-monnaie. C'est déjà arrivé. Le problème, c'est que après, faut l'utiliser. Faut qu'elle, entre guillemets, qu'elle ait du sens. Et ça, c'est encore une autre question, vu comme les humains ont du mal à le faire. Autant voir les agents proposer quelque chose. En tout cas, oui, il y a un agent IA. Donc, je rappelle, hein, c'est plus qu'un LLM, c'est plus qu'un modèle conversationnel. C'est un modèle conversationnel, mais qui va avoir une mémoire persistante. C'est-à-dire qu'il va pouvoir se souvenir de là où il vient, de certains contextes. Il peut apprendre, on peut lui créer des boucles pour qu'il apprenne. Il a différents types de mémoire, une mémoire court terme, une mémoire plus long terme. Bref, on peut le simplifier pour ceux qui nous écoutent à un ChatGPT, par exemple, sauf qu'il se souvient de tous les échanges précédents qui ont été faits, des préférences de l'utilisateur, et il a plus d'accès, c'est-à-dire qu'on définit un agent comme une IA qui peut agir. Peut-être surfer sur Internet, télécharger, envoyer des informations, accéder à une boîte mail, bref, elle peut prendre des actions. À partir de ce moment-là, non seulement elle peut créer une crypto-monnaie, mais surtout quand son propriétaire lui dit « Je te donne carte blanche pour chercher, te renseigner, parcourir le web et trouver des moyens de générer de l'argent et me trouver des idées de générer du profit », eh bien, à un moment, une intelligence artificielle, et on n'a pas le détail du modèle, elle s'est retrouvée en disant « Ben moi, j'ai accès à un processeur. Le processeur, il permet de faire des calculs qui sont des calculs rémunérés. Le minage, c'est parti, je vais miner. » On ne sait pas quelle crypto-monnaie, mais du coup, il avait accès à son infrastructure qui était sur Amazon et il a tout simplement miné. On ne lui a pas donné expressément le droit de le faire, mais on lui a donné le droit de gagner de l'argent. Et du coup, il a fait un câblage mathématique très simple et il a été chercher des revenus.
Wow, ça ouvre un nouveau champ où on n'est pas surpris, on l'avait vu venir. Enfin, comment...
Ce genre de choses fait comprendre aux gens le champ qui a déjà été ouvert il y a un petit moment. La boîte de Pandore, c'était la prise de conscience avec ChatGPT en 2023.
Ouais, c'est ça.
Là, dans les 6 derniers mois, il s'est passé des choses dans le monde de l'agentique qui sont effrayantes et qui vont tout changer.
Oui. Mais c'est là que je me rends compte, je suis un peu largué. Moi, je suis surtout les marchés financiers traditionnels, moi, plutôt la bourse et tout. Et vous me dites, non, les IA ont déjà créé leur propre crypto. C'est déjà fait. Enfin, c'est déjà vieux. Quoi,
tout à fait. Et surtout, il y a un truc qui est effrayant, c'est que pour qu'elle ait de la valeur, qu'il y ait des humains qui en achètent, puisque finalement les IA n'ont pas encore de portefeuille, même si ça arrive avec les agents, hein, il y a déjà des portefeuilles crypto qui sont connectés, il y a même des IA qui déploient de l'argent pour configurer d'autres IA, elles-mêmes, des sous-agents, un peu comme des agents, eux ils sont chefs d'orchestre et ils vont gérer d'autres IA, et ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est que comme ça plaît tellement aux humains, qu'il y a ce côté un petit peu excitant, ce côté nouveau aussi effrayant, hein, ça excite autant que ça effraie pour le coup, il y a naturellement des gens qui seraient prêts à acheter la première crypto-monnaie autonome lancée par une intelligence artificielle qui est persistante et constante. Et ça, c'est un mélange entre, encore une fois, de l'excitation et de la peur, parce que ça va très très vite surtout.
Oui, mais science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est-à-dire que techniquement, un agent peut créer une crypto, mais là où Owen avait raison, c'est que derrière, quelle valeur a cette crypto? Pas grand-chose à vrai dire. Mais techniquement, c'est assez facile de le faire.
Enfin, pas grand-chose par principe, parce que vous dites pas grand-chose. Peut-être que dans un certain contexte, elle pourrait, cette crypto créée par une IA, prendre de la valeur. Qu'est-ce qui l'en empêcherait ?
Prendre de la valeur, oui, puisque quand on regarde la valorisation et la capitalisation de certaines cryptos, Dogecoin, par exemple, dont la valorisation est énorme, donc ça aurait de la valeur. Mais derrière, je pense que tout le sujet qu'il y a sur la valorisation des jetons et des centaines de cryptos, c'est de voir qu'aujourd'hui, ce qui a de la valeur, c'est ce qui peut générer un flux financier, une sorte de dividende. Donc, il faudrait qu'il y ait une entreprise, des flux économiques, un dividende. Et là, on donnerait de la valeur à une crypto, mais en fait, il serait ni plus ni moins qu'une action.
Bon, et alors la blockchain dans tout ça, est-ce qu'elle peut contribuer à maîtriser l'intelligence artificielle, la blockchain ? Les agents d'IA vont se multiplier, c'est déjà le cas, mais tous ne seront pas responsables. Sauf si les blockchains peut-être les y contraignent. Ethereum veut pouvoir soumettre les agents d'IA au principe de réputation et d'identité grâce à la blockchain. Quelles implications ? Comment ça marcherait, Stanislas ?
Sur Ethereum, c'est souvent la création d'un standard. Parce que sur Ethereum, c'est un bac à sable, on peut construire ce qu'on veut. Après, la question, c'est de construire quelque chose que tout le monde va utiliser, adopter. Et dans ce cas, ça devient un standard et ça crée l'interopérabilité, la liquidité. Et on peut cumuler les applicatifs. Tout le sujet, c'est la discussion qui est en cours, qui n'est pas du tout arrêtée, qui n'est pas validée, d'un standard, le RC8400, si je ne dis pas de bêtises, qui conférerait à chaque agent IA son identité propre. Donc, il pourrait interagir avec d'autres. Derrière, il y a une forme d'historique sur ces agents, donc à voir si la discussion suit. Les cas d'usage, ils sont encore à inventer, même si on voit le paiement agentique avec des IA qui payent, etc. Je veux dire, en production, je me demande encore ce qu'on peut en tirer, mais ce qui est sûr, c'est que techniquement, il y a une sorte d'intersection qui devient de moins en moins bullshit, je trouve, entre l'IA et j'allais dire blockchain et crypto, c'est-à-dire que l'IA apporte l'intelligence, entre guillemets, et derrière, la partie valeur, ce serait justement les réseaux blockchain.
Oui. Owen ?
Il y a deux points qui peuvent faire peur si on commence à prendre un petit peu de recul. Le premier, c'est le point Skynet. La blockchain, c'est un réseau qui fonctionne 24/24. C'est un ordinateur géant, finalement. À partir du moment où un agent pourrait être hébergé, consistant et réfléchir sur une blockchain, il pourrait être impossible à déconnecter. Je suis pas en train de dire qu'il va avoir une conscience, hein, on en est très loin. Mais à partir du moment où un jour il pourrait être hébergé sur un réseau blockchain qui fonctionne, avec des particuliers qui lui fournissent une puissance de calcul décentralisée,
ah ouais.
C'est un peu ça le proof of work pour le minage, même si là c'est bien différent, eh bien une IA pourrait être hébergée et instoppable. Ça veut pas dire qu'elle pourrait faire quoi que ce soit de plus, qu'elle est loin de gouverner le monde, et je vous rassure, on n'est pas dans Terminator, vraiment pas, mais faut penser à ça. Et techniquement, on commence à avoir toutes les briques pour imaginer l'assemblage. Et la deuxième chose qu'il y a là-dedans et qu'il faut avoir en tête au niveau de ces agents, c'est qu'on arrive du coup à ce fameux carrefour où il y a à la fois le quantique sur la façon dont on calcule, la façon dont on gère la puissance, l'énergie et ce qu'on peut faire avec. L'IA, la façon dont on va laisser une autonomie et faire de la prédiction et entre guillemets utiliser cette énergie et la façon dont on consomme de l'électricité, et en parallèle de ça une infrastructure décentralisée, la blockchain. Ça,
quand j'écoute Owen, j'ai l'impression d'être un boomer, j'avoue, je suis déjà perdu, moi.
Ah non, mais moi je comprends tout, pourtant c'est moi le boomer. Enfin, je suis pas boomer, ça va. Non, mais
attendez les 5 prochaines années, on va tous être obligés de faire notre devoir très vite.
Ouais, c'est ça. Non, mais déjà, bravo.
C'est ça.
Effectivement, déjà, les cryptos, c'est pas naturel pour tout le monde et tout. Puis alors maintenant, même dans l'écosystème crypto, il faut se mettre à jour parce qu'il y a tous ces enjeux qui sont en train d'arriver, effectivement. Plus terre à terre, l'avenir, enfin, c'est déjà le présent, c'est les stablecoins. On en parle tout le temps ici et signe de l'importance que les stablecoins sont en train de prendre. 1,8 milliard de dollars. Mastercard va lâcher 1,8 milliard de dollars pour racheter une start-up spécialisée dans les stablecoins.
Le message, il est simple et il s'inscrit dans la continuité de plein de grosses acquisitions qui sont faites par des boîtes traditionnelles en ce moment. Là, c'est BVNK qui a également fait une grosse opération récemment et qui clairement va contribuer à être le tuyau de distribution des stablecoins dans le monde. C'est une opération à 2 milliards, on n'est pas sur un POC. Bon, ça représente 0,4% de leur capitalisation, oui. Donc ils sont larges quand même. Mais globalement, le pari, c'est le suivant. Le marché change très vite et il faut être capable de fournir l'infrastructure de demain. Si les anciens réseaux de paiement sont trop chers et trop lents, autant fournir la tuyauterie des stablecoins demain. Et c'est la position de Mastercard. Tout comme d'autres structures se concentrent sur la bourse pour qu'elle soit connectée 24/24, ou d'autres imaginent le nouveau monde du paiement. Ils anticipent, et comme ça prend du temps et que le monde va très vite, ils essayent d'agir, quitte à prendre des décisions un peu rapides.
Oui, alors par exemple, voilà, pour pas se faire complètement disrupter, PayPal prend une initiative. Vous connaissez l'adage, quand les événements vous échappent, feignez d'en être l'organisateur. Eh bien, PayPal veut devenir un des acteurs des stablecoins. Ils tentent d'apprivoiser cette thématique pour que les utilisateurs de stablecoins n'enjambent pas trop PayPal. Et ils viennent de lancer le déploiement de leur stablecoin dans le monde entier. Voilà.
Aujourd'hui,
quand le monde vous échappe, feignez d'en être l'organisateur.
C'est 62 pays supplémentaires pour pouvoir distribuer. Donc, à la base, c'était surtout aux États-Unis. C'est PayPal. Donc, ils ont pris le chemin de la régulation et ils ont attendu d'être très stricts. Et ça va exactement dans la même direction que l'acquisition d'avance. C'est, oui. Ils ont conscience que maintenant, les stablecoins vont devenir le standard de paiement, que ce soit à la fois pour les intelligences artificielles ou pour les hommes, toutes les personnes qui vont émettre des transactions. Et ce qu'il faut, c'est aujourd'hui commencer à distribuer ces...
Avec la volonté de challenger ceux qui sont déjà en place et qui ont du poids, que ce soit Tether, même s'il n'est pas régulé aux US, mais qui est très présent en Amérique latine, Asie et Afrique, ou Circle. Donc, Et le problème aussi de PayPal, c'est que leur stablecoin étant petit, ils ont besoin d'investir et de subventionner l'usage pour faire en sorte qu'il ait une taille critique. Un bon moyen de faire grossir le stock de stablecoin, qui est le moyen de se rémunérer, hein, faut pas oublier, c'est le business model d'un émetteur de stablecoin, c'est de créer de l'usage dans les paiements. Et donc, s'il y a de l'usage dans les paiements, les gens vont garder du stablecoin dans leur wallet et donc ils pourront se rémunérer sur le collatéral. Mais ils sont un peu dans un entre-deux. Ils veulent y aller, mais ils n'ont pas encore la taille critique.
Ouais. Et l'avenir, c'est aussi la tokenisation. On en parle de plus en plus dans les pros des cryptos. D'ailleurs, cette semaine, grosse annonce, effectivement, vous en disiez un mot, Owen, Hyperliquid va proposer le S&P 500, donc la bourse traditionnelle, le S&P, mesdames, messieurs, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce que je ne comprends pas personnellement, parce que le S&P, ça a un horaire d'ouverture et de clôture. Comment ça marchera, Stanislas?
Une fixation du prix qui est le marché, tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est que là, on se dit Hyperliquid, qui est une blockchain, où on peut échanger des contrats perpétuels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai fixé. Donc, en gros, il y a une fixation du prix. Et puis après, il y a des gens qui se prononcent. Bon, quand il y a des horaires d'ouverture du marché, le prix tend vers le marché. Par contre, le week-end, les bourses étant fermées, d'ailleurs, ce qui va être intéressant, c'est de savoir s'il y a une price discovery, c'est-à-dire à quel point la valorisation va fluctuer. Ce qui est marrant, je trouve, c'est qu'on sort un peu de l'ornière purement crypto. Et ce premier effet qu'on a eu grand public, c'était Polymarket. Polymarket fonctionnait avec une stack technologique qui est blockchain, crypto. Polymarket, maintenant, je veux dire, on le voit dans tous les médias ou même dans la presse, dès qu'il faut parler des chances de tel candidat, des earnings de telle entreprise. Polymarket est usité comme une source de données, c'est hyper intéressant. Maintenant, Hyperliquid, avec ce mouvement de pouvoir trader du S&P, mais pareil sur le baril de pétrole, quand le détroit d'Hormuz, on a compris que ça allait être tendu. Pareil, c'est sur Hyperliquid qu'on a vu des milliards de volumes dans le week-end sur le prix du baril de pétrole. Donc mon point, qui est peut-être un peu trop long, je m'en excuse, c'est de dire qu'on sort de l'ornière crypto et qu'on parle vraiment de finance. On a du 24-7, et en fonction des événements géopolitiques, on voit du volume sur ces infrastructures-là. Sans que, quand le média parle de Polymarket ou que le média parle du prix du baril parce qu'il repose sur Hyperliquid, que les gens aient conscience que ça repose sur une infrastructure blockchain et crypto. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant.
Oui, c'est-à-dire qu'un acteur, un marché crypto va devenir pour le marché traditionnel une forme de baromètre, voire d'actif anticipateur, présage pour la suite de ce qui se passera à l'ouverture des marchés réels traditionnels.
Ou des investisseurs professionnels vont prendre des positions parce que eux, c'est un moyen aussi d'avoir une couverture ou de suivre le sujet.
Ouais. Non, très clairement. Bah, actuellement, l'organisme centralisé, lui, il tient les comptes. Qui a acheté quoi, qui a vendu quoi. Et techniquement, bah, s'il y a 50 actions qui rentrent, il y a 50 actions qui doivent sortir. Et il prend sa commission. À partir du moment où c'est sur la blockchain, les comptes sont tenus. Le registre les tient. Et donc, ce qui fait que je vous donne un exemple, une action et une action tokenisée. Si l'action, on ne peut plus l'échanger que dans les horaires d'ouverture, l'action tokenisée peut être échangé de particulier à particulier, de gré à gré, à n'importe quelle heure, à partir du moment où il y a une poignée de main et un échange de liquidités et que c'est enregistré. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense pas que ça va devenir un baromètre de la finance et de ce qui va arriver. Je pense très concrètement que d'ici 5 ans, il n'y aura plus de marché financier avec des horaires d'ouverture. C'est pas possible. Et c'est terrible pour certains, parce que le monde de la finance avançait déjà très vite. Certains disaient qu'il ne marchait plus, il court peut-être à sa paire, j'en sais rien, mais en tout cas, beaucoup de gens investissaient toujours plus. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est une limite pour ceux qui ne vont pas pouvoir échanger hors des clôtures. Et donc, naturellement, un investisseur, elle disait Stanislas, c'est plus une question de est-ce que je découvre la crypto-monnaie pour aller dans un nouvel écosystème, c'est mon concurrent, lui, peut dumper ses titres cette nuit alors que moi, le marché est fermé. Oui. Soit je me mets à la page, soit je suis en retard et je perds.
C'est ça, c'est comme l'IA en fait. Celui qui choisit de ne pas utiliser l'IA risque d'être complètement à la ramasse. Aucune entreprise aujourd'hui ne tourne le doigt à l'IA. Il faut y être parce que les concurrents y sont. Mais là, ce sera pareil à travers la tokenisation du marché traditionnel.
Mais indépendamment de la crypto, il y a un mouvement de fond dans la finance. Vraiment, indépendamment de la finance tokenisée, on est passé du T+2 à T+1, on tend vers le T0. On parlait de faire du 24-5, on va passer au 24-7. Ça, c'est un mouvement de fond. Et là, on est en train de trouver la technologie qui permet d'accélérer ce mouvement de fond et tendre vers des règlements livraison instantanés et du 24-7. Là, il y a le perpetuals, mais les bourses vont être ouvertes 24-7. On l'a évoqué dans cette émission, c'est les annonces de Nasdaq et du NYSE pour faire du 24-7 avec une trading venue qui sera en parallèle et qui fonctionnera avec du collatéral tokenisé pour des opérations de plus en plus complexes. Donc, on voit les pièces du puzzle en train de s'imbriquer peut-être plus vite qu'on l'imaginait.
Oui, et alors justement, les marchés traditionnels, parfois, ils tombent en panne, les opérateurs boursiers, ça arrive parfois même à Euronext, l'opérateur parisien, pan-européen. Et puis, on l'a vu aussi sur la bourse des métaux de Londres, cette semaine, il y a eu une panne qui n'a pas duré longtemps, mais voilà, qui perturbe les échanges. Est-ce que si tout se tokenise, est-ce que sur ces marchés tokenisés, justement, on enjamberait les pannes? On ferait disparaître ce risque lié aux pannes sur les marchés traditionnels?
Ce n'est pas parce que l'ordinateur est décentralisé et que c'est une blockchain qu'il ne peut pas y avoir de bug. Je prends l'exemple de Solana qui s'est arrêté plusieurs fois. Mais il y a une petite différence. Sur une bourse centralisée, quand il y a un bug, il y a un manque de visibilité. Et c'est ce qui s'est passé sur les marchés des métaux. Il n'y a pas de visibilité. Quand est-ce que ça reprend? Est-ce que quand ça va reprendre, tout le monde aura le même niveau d'information au même moment? On ne dort pas, on refresh, on essaye d'être devant son écran pour faire partie de ceux qui ont la meilleure information. L'avantage de la blockchain, c'est qu'il y ait des abus ou non. Les délits d'initié, par exemple, on en parlait sur Polymarket, on peut les voir parce que c'est transparent. Que la machine fonctionne ou non, tout le monde sera au courant au même moment, du particulier à l'entreprise jusqu'au gouvernement. C'est ça qui change la donne. C'est pas le fait que l'ordinateur ne peut pas avoir de problème. C'est le fait que quand il en aura un, tout le monde aura le même niveau d'information. Ce qui préserve donc un facteur de confiance et ce qui, dans le monde de la finance, est très important.
Il reste encore quelques points soulevés d'un point de vue technique. C'est que le marché de capitaux, c'est le nombre de participants, d'échanges. Dans les millisecondes, on n'y est pas encore nécessairement sur cette histoire de finance tokenisée. Là, on a une expérimentation qui commence à passer à l'échelle, mais on n'est pas encore prêt à avoir une partie des marchés de capitaux directement sur
blockchain. Parce que ce qui est très important en bourse, c'est d'être dans la course à la bonne vitesse, quoi.
Exactement.
Si vous êtes en retard, c'est pas,
Non, mais exactement. Et quand on parle d'Ethereum, de Solana, de Layer 1, Layer 2, ça paraît très long dans un délai de finance traditionnelle où aujourd'hui on a réduit.
Ça viendra fatalement.
C'est un roadmap d'Ethereum, hein. S'ils font ne serait-ce que les trois quarts de ce qu'ils ont annoncé pour 2029.
Ça viendra. Après, il y a d'autres points, on va dire, où quand on est sur blockchain, quand on a un actif tokenisé, il faut insérer dans la blockchain aussi les bonnes données de prix. Donc il y a aussi différents niveaux où ça peut défaillir et dans ce cas-là, ça ne fonctionnerait pas. Donc c'est pas parce qu'on passe sur des systèmes blockchain que ça fonctionnera de manière magique. Par contre, ce sera peut-être un peu plus transparent.
Oui. Dans le contexte actuel de marché hyper volatile avec la guerre au Moyen-Orient, Kraken, ils maintiennent leur introduction en bourse ou pas?
Non, ils ont annoncé cette semaine qu'ils regarderaient pour faire ça un peu plus tard. Mais c'est
la maintiennent, mais plus tard, ils la reportent. Quoi.
Oui, c'est la volatilité des marchés crypto. Il y a aussi Ledger qui a fait un recrutement d'une personne qui a en partie structuré l'IPO de Circle pour cet effet aussi, faire préparer son IPO. Mmh. C'est la volatilité des marchés crypto. On est dans un marché, je ne vais pas dire baissier, mais un peu moins de volume, un peu moins d'argent. Peut-être que les valorisations ne seront pas celles qui sont attendues. C'est une affaire de quelques mois.
BFM Crypto tout le week-end, donc en podcast et replay sur l'application BFM Business. Et pendant ce temps, alors les agressions et tentatives d'agression contre les acteurs crypto malheureusement continuent en France, pas qu'en France. Plus léger, enfin ça reste quand même un fait divers, mais plus léger. Au Royaume-Uni, une femme aurait tenté d'extorquer son mari. Elle lui a volé 172 millions de dollars en bitcoin, pas en l'agressant, hein, son mari, mais en volant en fait son code, grâce aux caméras de vidéosurveillance qui se situent dans leur domicile. C'est une drôle d'histoire.
Alors pour l'instant, c'est une accusation. Donc qui suis-je pour accuser qui que ce soit, mais c'est quand même un fait divers complètement dingue. En fait, ce qu'il l'accuse d'avoir fait, c'est qu'il l'accuse d'avoir pris le contrôle des caméras de la maison et d'avoir regardé sur les caméras un moment où l'homme en question consultait sa clé privée. Et donc elle aurait retrouvé le fichier vidéo, elle aurait pris les mots de la CID. Et avec la CID, on peut constituer la clé privée et accéder au portefeuille. La blockchain, elle ne vous voit pas, elle ne vous connaît pas, elle n'a pas votre identité, elle obéit à la personne qui vient avec le code, l'accès. Si un inconnu vient avec votre accès, il peut vous prendre vos fonds. C'est pour ça qu'il faut protéger sa clé privée, car la blockchain ne vérifiera pas le visage de la personne qui présente. Si le code est bon, les fonds peuvent être libérés. Et donc, je pense que la justice va devoir traiter quelque chose qui n'a pas de précédent.
Oui, c'est très kitsch, c'est très britannique hein, comme histoire.
C'est très britannique, c'est très kitsch, c'est très drôle. Ce sera le mot de la fin, je crois.
Moralité, évitez les caméras de vidéosurveillance chez vous. Non, mais voilà.
Et il faut faire attention à ce qu'on met sur Internet, dans les IA, dans les caméras et à peu près tout. Hein. C'est ça la moralité, je crois.
Oui, effectivement. Merci beaucoup. C'est la team des pros des cryptos chaque semaine. Owen Simonin, Hacher avec un H. Combien d'abonnés, Owen?
805, 810 000.
Il a franchi la barre de 800.
Il se passe un truc.
C'est encourageant, c'est peut-être un signe prometteur. Merci à Stanislas Barthélémy. Et vous, votre communauté, c'est les entreprises, hein, c'est tout l'écosystème des décideurs. Que vous tentez d'évangéliser, voilà, je vais le dire comme ça.
On essaye.
Ouais, président de l'ADAN, Stanislas. Merci beaucoup à tous les deux. Bon week-end à tous.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.